Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant 7h. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports et un Français a gagné la dernière étape du Tour de France. Christophe Mallet a rencontré une légende du Tour, Ronan Pensec. Puis vous avez rendez-vous avec la rétrospective du jour avec Léo Roussel qui nous parlera d'Amy Winehouse, puis Europa Voice avec Nathalie Bloch et une pause fromage avec Gaëtan qui nous fait découvrir des fromages australiens aux recettes françaises. Mais tout de suite, c'est votre journal. Les titres de ce samedi 23 juillet, avec l'augmentation du nombre de personnes infectées par le Covid-19, le retour du travail à la maison est désormais une option à reconsidérer selon les syndicats. La signature d'un accord entre la Russie et l'Ukraine ce vendredi va permettre d'ouvrir des couloirs sécurisés pour exporter les millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. C'est l'aboutissement de longues semaines des négociations et le président américain Joe Biden, infecté par le Covid-19, se porte bien. Alors que les infections liées au Covid-19 repartent à la hausse, le Property Council of Australia s'oppose à une proposition des syndicats visant à permettre aux employés de travailler depuis leur domicile. Le syndicat, représentant le secteur financier, souhaite pouvoir négocier des accords afin de donner la possibilité de travailler à domicile et que cela soit officialisé dans les prochains accords d'entreprise avec les grandes banques. Le PDG du Conseil de la propriété, Ken Morrison, met en garde contre toute décision de rétablir les précédents paramètres mise en place pendant la pandémie qui aurait pour effet d'avoir à nouveau des bureaux vides dans le CBD.
So the costs are borne not by the tenants in the office buildings or by the building owners who the property council represents, but by the cafe owners, the restaurateurs, the small business owners, the retailers at the bottom of the buildings, the people who rely on people being in the city.
C'était un accord très attendu dans un contexte de forte hausse des prix des céréales dans le monde et que plusieurs pays, notamment l'Afrique, sont menacés de famine. Après un mois de négociations, l'Ukraine et la Russie se sont mis d'accord sur les conditions d'exportation des céréales en Ukraine et en mer Noire, associant également la Turquie et les Nations Unies. La signature de cet accord s'est déroulée lors d'une cérémonie vendredi à Istanbul. Reportage de RFI.
Il s'agit en réalité de deux accords séparés, l'un signé par Kiev, l'autre par Moscou, dans les deux cas avec la Turquie et les Nations Unies. Ils actent la création de couloirs sécurisés pour assurer, via la mer Noire, l'exportation de millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. En l'occurrence, trois ports sont concernés, ceux d'Odessa, de Tchernomorsk et de Pivdeni. Couloirs sécurisés, cela veut dire pour Kiev l'assurance que ces navires marchands ne seront pas attaqués par la Russie. Pour cela, les chargements seront escortés par des bateaux appartenant à l'Ukraine dans ses eaux territoriales, bateaux qui ne seront pas des navires de guerre. Il faudra toutefois attendre quelques semaines pour que les livraisons reprennent. Pour la Russie, sécuriser implique la garantie que les bateaux qui entrent dans les ports ukrainiens ne transportent pas d'armes. L'accord prévoit donc un mécanisme d'inspection des navires dans un port turc par des experts russes, ukrainiens, turcs et des Nations Unies et la création d'un centre de contrôle et de coordination à Istanbul. Reste à voir si cette percée diplomatique sera suivie d'effets. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lourdement insisté sur ce point. Anne-Laure Istanbul, RFI.
En Ukraine, les affrontements continuent autour de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Et l'ONG Human Rights Watch a de son côté accusé l'armée russe de perpétrer des tortures, détentions illégales et enlèvements de civils dans la partie méridionale de l'Ukraine sous contrôle de la Russie. Entre la Russie et Israël, les relations se tendent autour des activités de l'agence juive. Le ministère russe de la Justice demande la dissolution de cette agence. Elle est chargée d'aider à l'immigration vers Israël des personnes d'origine juive. Les autorités russes demandent des explications sur les activités des émissaires de cette agence dans leur pays qui dépasseraient, selon Moscou, le cadre légal, des accusations que rejette Tel Aviv, Michel Paul pour RFI.
Israël opte pour la voie diplomatique pour tenter d'aplanir le différend avec Moscou. Le Premier ministre Yair Lapid souligne que son pays continuera d'agir pour que le travail de l'agence juive ne s'arrête pas. Et les responsables de l'organisme israélien chargé de l'immigration rejettent les accusations selon lesquelles ces émissaires violeraient la loi russe. Yigal Palmore est le porte-parole de l'agence juive.
C'est tout à fait ridicule, bien sûr, mais bon, nous avons été convoqués pour le 28, pour le début de la procédure. Une délégation de conseillers juridiques va se déplacer à Moscou. Eh bien, on verra comment cela continue. Avec ces démêlés avec la justice russe qui ne sont jamais simples.
Les détails de la demande russe restent flous, estime-t-on ici en Israël. Les relations entre Israël et la Russie traversent un épisode de tension lié à la guerre en Ukraine. Les dirigeants israéliens qui tentent de naviguer au plus près dans ce conflit se sont attirés les critiques des deux parties. Plus d'un million d'originaires de l'ex-URSS vivent aujourd'hui en Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Les symptômes du Covid-19 du président américain Joe Biden s'améliorent après avoir été testé positif au virus. Le président, âgé de 79 ans, est en quarantaine et devrait reprendre ses fonctions une fois son test revenu négatif. Selon son médecin, il réagit bien aux médicaments, propos confirmés par l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
President Biden completed his first full day of Paxlovid last night. His symptoms have improved. He did mount a temperature yesterday evening to 99.4 degrees Fahrenheit, which responded favorably to Tylenol. His temperature has remained normal since then. His symptoms remain characterized as runny nose and fatigue, with an occasional non-productive, now loose cough.
Karine Jean-Pierre a ajouté qu'aucun des membres du personnel proche du président n'a été testé positif au virus. Un jury aux États-Unis a déclaré l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, coupable de deux chefs d'accusation au Congrès sur l'assaut du Capitole. L'influent homme de 68 ans a été inculpé pour son refus de coopérer avec le comité du Congrès chargé d'enquêter sur les événements qui ont conduit à l'émeute du Capitole. Il risque jusqu'à 2 ans de prison et jusqu'à 145 000 $ d'amende, dollars australiens. La date de son procès est fixée au 21 octobre. Monsieur Bannon dit qu'il déposera un recours.
I want to start by thanking the jury. We respect their decision. We may have lost a battle here today, but we're not going to lose this war. I stand with Trump and the Constitution, and I will never back off that ever.
La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a refusé de confirmer ou d'infirmer un déplacement à Taïwan, affirmant qu'elle ne discutait jamais de ses projets de voyage à l'avance car il s'agissait d'un problème de sécurité. Madame Pelosi devait se rendre sur l'île en avril, mais a dû annuler après avoir été diagnostiquée au Covid-19. Elle a également répondu à une rumeur selon laquelle les militaires s'inquiéteraient de sa sécurité si elle entreprenait une telle visite.
I think what the president was saying is maybe the military was afraid our plane would get shot down or something like that by the Chinese. I don't know exactly. I didn't see it. I didn't hear it. You're telling me, and I've heard it anecdotally, but I haven't heard it from the president.
Nancy Pelosi serait la première présidente de la Chambre à se rendre à Taïwan depuis 1997. La police d'Australie-Occidentale a mis en place de nouveaux protocoles culturels en collaboration avec les représentants des communautés aborigènes. Ils se sont appuyés sur l'utilisation réussie d'une technologie permettant aux aborigènes d'entendre des informations dans leur propre langue. Des connaissances culturelles spécifiques pour chaque village seront transmises à chaque officier en service avec des protocoles réalisés conjointement avec les dirigeants des communautés autochtones. Cela fait suite à l'adoption de l'application d'interprétation Yarning qui permet aux agents de diffuser des informations importantes dans des langues autochtones, notamment les droits de garde et les mises à jour Covid-19. Le surintendant de la division des affaires autochtones, Tony Colfer, affirme que la mesure contribue à renforcer la confiance entre les collectivités aborigènes et les policiers. La météo de ce samedi, Perth, journée pluvieuse et seulement 19 petits degrés. Adélaïde, ciel partiellement couvert et 19 degrés. Melbourne, averse au programme. Des températures en hausse, 16 degrés. Hobart, alternance de nuages et éclaircies, 15 degrés au thermomètre. Le ciel de Canberra sera couvert aujourd'hui et seulement 15 degrés. Sydney, averse et 18 degrés. Brisbane, alternance de nuages et d'éclaircies et un maximum de 21 degrés. Cairns, journée agréable, ensoleillée et 26 degrés. Darwin, météo clémente et 29 degrés. Le rappel de ce samedi 23 juillet, avec l'augmentation du nombre de personnes infectées par le Covid-19, le retour au travail à la maison est désormais une option à reconsidérer selon les syndicats. La signature d'accord entre la Russie et l'Ukraine ce vendredi pour pouvoir ouvrir des couloirs sécurisés pour exporter des millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. Et le président américain Joe Biden infecté par le Covid-19 se porte bien. Excellente journée avec SBS, votre programme en français.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Tout de suite, le journal des sports spécial Tour de France. À quelques jours de l'arrivée, un Français a finalement remporté une étape du Tour de France cette année. Et ce, à deux jours seulement de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Christophe Laporte a remporté le sprint face au Britannique Fred Wright avec seulement 400 mètres d'avance. On écoute Christophe Laporte.
Ah, je suis hyper heureux, j'ai du mal à réaliser vraiment encore. L'équipe m'a fait confiance aujourd'hui. Wout m'a dit c'est pour toi aujourd'hui. La dernière fois qu'il m'a dit ça, c'était à Paris-Nice. Donc voilà, ça me porte chance. Et on avait l'objectif de sécuriser Jonas aux 3 km. Et après, l'équipe m'a dit, vas-y, c'est pour toi. Après quelques virages, à 1,5 km, 2 km, j'ai vu, il y avait un petit gap derrière. Ils étaient pas loin devant, donc j'ai fait le jump pour revenir. Et j'ai lancé de loin pour pas que ça revienne derrière. Et ça l'a fait, c'est incroyable.
C'est la récompense de 3 semaines d'efforts pour l'équipe.
Ouais, c'est plus qu'une récompense, c'est énorme. J'étais déjà hyper heureux de ce Tour de France, même si j'avais pas de résultats spécialement. Mais j'ai pris vraiment énormément de plaisir avec l'équipe. Et voilà, encore aujourd'hui, ils m'ont laissé l'opportunité, alors qu'on joue la gagne du Tour de France, c'est quand même exceptionnel. Voilà, Wout aurait pu faire le sprint aussi, mais aujourd'hui il a dit c'est pour toi, donc c'est vraiment une super journée. Je sais pas trop quoi dire, j'ai du mal à m'en rendre compte vraiment pour le moment.
Et accessoirement, c'est la première victoire française, et ça aussi c'est important.
Ouais, ça c'est important. Ah, je suis très content, je suis très très heureux. Et si ça fait plaisir au public, ça me rend encore plus heureux, et à ma famille, et voilà, je pense à tout ça.
L'Australien Caleb Ewan a terminé 10e de la 19e étape. Ewan partage à SBS sa déception, étant donné qu'il est considéré comme un bon sprinter, mais il garde espoir à l'approche de la dernière étape.
I'm confident with my form, but to be honest, I'm super disappointed with today. It was a finish that really suited me, that slight uphill, and I really wanted to win today, and now the stage is gone and another disappointment.
Voilà, c'était le journal des sports. Je vous invite à suivre le Tour de France sur SBS avec notamment Christophe Mallet. Excellente journée avec SBS.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec un de mes idoles. Quand j'étais tout petit et que je grandissais, on entendait parler beaucoup du Tour de France chez moi. Et d'un nom, Ronan Pinsec. Ronan Pinsec, merci d'être à l'antenne d'SBS.
Bonjour, je vous en prie, merci de m'accueillir.
Quelle histoire que vous avez eue sur le vélo. On va parler de ce que vous faites maintenant, mais surtout, on va revenir un petit sur votre carrière. Une carrière de cycliste, vous avez porté le maillot jaune, de beaux succès. Vous vivez ça comment maintenant que c'est passé un peu dans votre histoire à vous?
Je prends ça avec beaucoup de recul. Pour moi, c'était une première vie, très enrichissante humainement, beaucoup de joie, beaucoup de, de privation aussi, parce que c'est quand même un métier qui est très dur. J'ai la coutume de dire, j'ai eu une vie de moine pendant un certain temps, et puis une fois que ça s'arrête, parce qu'on devient un jeune vieux, il faut, faut rebondir et essayer de trouver quelque chose qui vous corresponde. Pas évident dans le sens où on est quand même habitué à bouger beaucoup, à avoir aussi quand même beaucoup d'émotions. Trouver un job après qui corresponde à ça, faut trouver, un bon compromis.
Des émotions, vous en avez eu dans votre vie, notamment maillot jaune le jour de votre anniversaire, je crois. Ça, c'est un des grands moments.
Oui, c'est vrai, c'est un moment, un grand moment et aussi un moment sympa, quoi, parce que déjà, pour un coureur cycliste, avoir le maillot jaune, c'est quand même quelque chose de fort, important. La preuve, on m'en parle encore. Et en plus, qui plus est, le jour de mon anniversaire, une étape de montagne, c'était émouvant. Le seul petit truc, c'est que comme on était en montagne, il y avait quand même beaucoup de pression et beaucoup de concentration. Ça fait partie de la vie.
Un maillot jaune, ça change vraiment la vie dans un coureur cycliste?
Ça change. En fait, je dirais oui, non. Ça change dans le sens où on m'en parle encore maintenant. Donc, en fait, on en parle longtemps après parce que, on a été maillot jaune. Après, moi, ça ne m'a pas changé forcément de statut ni de contrat parce que, j'avais quand même eu de bons résultats avant. Donc, c'était plus, une confirmation. Parce que mes premiers tours, une fois j'ai fait 6e, une fois j'ai fait 7e, donc c'était pas trop mal. Mais effectivement, c'est plus après, dans l'après-carrière, qu'on continue à en parler et que malgré tout, oui, ça peut ouvrir des portes quand même.
D'accord. Une dernière question cycliste, et après on va parler de ce que vous faites aujourd'hui. Comment vous vivez cette période actuelle? Aujourd'hui, on a Pogacar, Vingegaard, des jeunes loups qui vraiment cassent les règles. Et on parle beaucoup, ça revient à un cyclisme à la Merckx, à la grande époque, même à la Bernard Hinault. Vous étiez vécu cette période, pas la période Merckx, mais la période Bernard Hinault et ce qui s'ensuit. Vous le vivez comme ça? Parce qu'il y a eu une période où ça écrémait par l'arrière, mais aujourd'hui ça écrème par le haut, et c'était déjà ça avant. C'est pas vraiment nouveau dans le cyclisme.
Disons que c'est vrai que on a eu une certaine période, et ça a commencé avec Indurain, donc ça me concerne, où jusqu'au Sky, quoi, entre les deux, il y a toute la période Armstrong où les équipes étaient vraiment très très fortes, ils cagnassaient la course, et puis ça roulait très fort, et effectivement ça sortait par l'arrière. Donc là, pour dire franchement, on s'ennuyait quand même fortement. Certes, les coureurs étaient très forts, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Et en fait, je trouve que ça a commencé, ce nouveau cyclisme, entre guillemets, ou cet ancien cyclisme, un peu quand Bernal est arrivé là. Et après, c'était Pogacar. Et puis, Pogacar, c'est vrai qu'il a enflammé tout le monde. Et l'an dernier, il y a un autre coureur qui sort de nulle part, un Danois que sincèrement personne ne connaissait et qui vient également chambouler le tout. Et cette année, les deux étaient au top niveau et ça s'est vraiment bien bagarré. Donc ça augure encore de belles années. Et donc c'est vrai que la manière de courir est vraiment très instinctive. Quoi. On voit la Pogacar, quand il a envie d'attaquer, il attaque. Et c'est pas calculé. Quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Et bon, on voit bien, quoi, les gens suivent le Tour de France, et les audiences, je ne sais pas comment c'est en Australie, mais en tous les cas, en France, les audiences sont très bonnes, donc voilà, quoi.
Si, si, ça cartonne, je vous rassure. Alors, votre vie d'aujourd'hui, vous assistez le réalisateur sur le signal international, donc c'est les images qu'on voit en Australie. Vous essayez de leur donner une histoire à ces images, vous aidez le réalisateur à raconter l'histoire du jour.
En fait, concrètement, comment que ça s'est passé? Moi, j'arrive, j'arrête ma carrière... mi-97, et à partir de là, il y a un nouveau réalisateur qui venait d'arriver sur le Tour de France. Et puis voilà, le directeur des sports de l'époque, qui s'appelle Jean Réveillon, a voulu intégrer un consultant sport vraiment pour entre guillemets scénariser le direct télé. Et parce qu'il y a quand même de passionnés vélo qui regardent le cyclisme et qui veulent vraiment voir vraiment du vélo. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui regardent le Tour de France parce qu'il y a des châteaux, enfin qu'on découvre la France. Donc tout ça, ça fait un melting pot, et il faut quand même voilà, qu'il y ait de belles images, mais aussi de belles images de course. Donc du coup, moi, mon rôle est de conseiller le réalisateur dans le choix des images sur la partie sportive. Donc moi, je suis tout le temps dans l'anticipation quand les gars vont attaquer. Moi, je parle avec les caméramans qui sont sur les motos, dans les hélicoptères. Je leur demande d'aller chercher tel coureur. Fais-moi un gros plan sur son genou parce qu'il est tombé, sur son dérailleur parce qu'il tire un gros braquet. Enfin voilà, j'essaie de changer un peu les choses et d'avoir une image purement sportive.
Ah, c'est super intéressant en fait comme rôle. Ah, une dernière question sur les coureurs australiens. C'est à l'autre bout du monde du Tour de France. Par contre, ils arrivent quand même à faire des étincelles sur le Tour de France. Il y a une vraie culture du vélo en Australie, et on la connaît, cette culture du vélo australien, en France.
Bah, moi, j'ai bien connu Phil Anderson, d'accord, Phil Anderson. Après, donc il y avait déjà. En fait, c'est un peu lui qui a été le pionnier. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière en 85 chez Peugeot. Bon, il était parti, mais voilà, il a quand même beaucoup couru pour Peugeot. Et après, les premières courses de Stuart O'Grady, il est venu, il avait signé chez nous. Donc, du coup, c'était l'équipe Z. Et en fait, on était souvent ensemble en chambre, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que le cyclisme australien, je le connais un petit peu. Et pourquoi ? Parce que il n'y a pas de raison. Parce que voilà, à partir du moment où il y a des passionnés de cyclisme et des gens qui aiment bien le vélo, sur le nombre, il y a toujours quelques champions qui sortent, quoi.
Mais c'est intéressant de savoir que l'Australie était connue beaucoup pour sa vitesse, les sprinters. Aujourd'hui, il y a des coureurs qui peuvent gagner, vraiment le Tour, et comme Jai Hindley gagner le Giro, des gens bons en montagne.
Oui, mais effectivement, c'est un peu passé par la piste. Stuart O'Grady, il était un ancien pistard, mais je veux dire, à partir du moment où les coureurs, ils ont un gros moteur. Il passe partout, quoi. Donc effectivement, là-dedans, il y a des coureurs qui roulent très vite, mais qui ont aussi une corpulence correcte pour passer les montagnes. Et à partir de là, ça fait des grands champions, quoi.
Merci Renan Pincec.
J'en prie, merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. Radio SBS en français.
Nous sommes le 23 juillet, comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 2011. Le 23 juillet, le monde de la musique perdait une des plus talentueuses artistes de sa génération, Amy Winehouse. La chanteuse britannique disparaissait à l'âge de 27 ans à Londres. Retour sur le décès d'une star de la soul à la voix unique avec Léo Roussel et les archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions. Try to make me go to rehab, I say no, no, no.
Ils ont essayé de me faire aller en désintox, mais j'ai dit non, non, non. Ainsi s'ouvre l'un des plus gros succès de la chanteuse Amy Winehouse, décédée il y a 11 ans déjà. Cette phrase tirée du tube Rehab, nommée enregistrement de l'année, chanson de l'année et meilleure prestation vocale pop féminine aux Grammy Awards en 2008, eh bien, elle a une forte connotation autobiographique pour la chanteuse britannique, tant sa carrière a finalement été marquée par les problèmes avec l'alcool ou la drogue et les cures de désintoxication. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse était retrouvée morte à son domicile de Camden, dans la banlieue nord de Londres, en Angleterre. L'autopsie révélera qu'elle est décédée d'une overdose d'alcool. La chanteuse s'éteint à 27 ans et rejoint, comme de nombreux journalistes du monde de la musique s'accordent à le dire à l'époque, le club des 27. Ces artistes rock et blues, tous décédés au même âge, à 27 ans, parmi lesquels Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin ou encore le fondateur des Rolling Stones, Brian Jones. Alors Amy Winehouse, les experts de la musique s'accordent aussi à le dire, elle a marqué de son empreinte le monde de la musique, d'abord pour son talent, celle qui naît en 1983 du côté de Southgate au nord de Londres, a un timbre de voix unique, puissant, qui va rapidement faire son succès. Amy Winehouse vient d'une famille juive de musiciens et commence la scène dès l'âge de 13 ans, d'abord avec le théâtre, avant d'exploser dans la musique dès l'âge de 18 ans, lorsqu'elle est signée par une maison de disques. En 2003 sort son premier album qui est déjà un succès avec ce titre, Stronger Than Me. You should be stronger than me. But instead you're longer. Avec des sonorités jazz, l'album rend hommage au genre musical dans lequel Amy Winehouse a été bercée, mais aussi à Frank Sinatra, un artiste qu'elle adorait, d'où le nom de l'album, Frank, qui sera certifié disque d'or en 2004. C'est en 2006 qu'Amy Winehouse va véritablement exploser avec l'album Back to Black qui va la couronner de succès. Dès sa sortie à la fin du mois d'octobre 2010, l'album se place en haut des charts anglais, certifié 6 fois disque de platine, récompensé à de multiples reprises. Il reste d'ailleurs encore aujourd'hui le deuxième album le plus vendu au Royaume-Uni au 21e siècle, juste derrière l'album 21 de la chanteuse Adele, paru en 2011. Mais malgré ses succès, Amy Winehouse fait le plaisir de la presse à scandale anglaise. Régulièrement, elle y est affichée ivre, on y détaille ses addictions à l'alcool, aux stupéfiants, ses séjours en cure de désintoxication, sa vie amoureuse. Alors ses problèmes avec l'alcool et la drogue sont réels, ils ont des conséquences sur la santé de la star et sur sa carrière. Et Amy Winehouse doit parfois annuler des concerts, comme c'est le cas à Rock en Seine, en France, en août 2008, comme l'explique ce reportage de France 3 à l'époque.
Elle est totalement encore totalement bourrée, quoi. Elle a dû prendre trop d'alcool, trop de drogue, comme d'habitude.
La déception, hier au soir, trois quarts d'heure avant le début du concert, la nouvelle tombe. Pour la deuxième année consécutive, Amy Winehouse ne viendra pas à Rock en Seine.
Elle est connue pour annuler souvent ses concerts, donc c'est plus une chance quand elle est là qu'une déception quand elle n'est pas là.
En juin 2011, elle entame une tournée européenne qui démarre à Belgrade. Son premier concert est très décrié, elle est huée par le public, visiblement saoule. Ce sera son dernier concert, elle annule ensuite tous ses concerts de la tournée pour se reposer. Un peu plus d'un mois plus tard, Amy Winehouse était retrouvée, morte d'une overdose, seule à son domicile. Un décès qui a déclenché une vague d'émotion à l'international et qui a vu de nombreux fans pleurer la disparition de celle qu'on a souvent qualifiée de diva de la salle.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Y a d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois, c'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas, de façon je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards.
Mon amour, oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Oui, pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi.
Stromae, mon amour sur SBS, bon appétit, bon après-midi, selon ce que vous faites. On se retrouve dans un instant avec un épisode de Europa Voice avec Nathaniel Bloch et Marianne Murat. A tout de suite.
Europa Voice numéro 101, et comme chaque épisode, j'ai le plaisir de retrouver Nathanaël Bloch.
Bonjour Marianne.
L'Union européenne telle qu'on la connaît actuellement va-t-elle changer de forme dans les années à venir? On a parlé dans un précédent numéro d'Europa Voice du statut de candidat de l'Ukraine et de la Moldavie. Aujourd'hui, c'est la Macédoine du Nord qui fait un pas de plus vers le processus d'adhésion, c'est ça?
Effectivement, Marianne, la Macédoine du Nord a vraiment fait un pas de plus vers un processus d'adhésion à l'Union européenne. Le week-end dernier, samedi, avec encore une fois, et c'est important parce qu'on a traité lors du dernier Europa Voice de la fin de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne par la France. Donc on avait la France derrière ces négociations, mais on a le Parlement de Macédoine du Nord qui a justement approuvé cet accord pour que le pays soit candidat à l'accession à l'Union européenne. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, c'est dans les tuyaux depuis quasiment maintenant 20 ans, parce que Skopje est candidate à l'Union européenne depuis 2005. Mais là, vraiment, il y a un coup d'accélérateur vers les Balkans, vers l'Europe de l'Est. Et finalement, c'est dans la logique de ce qui s'est passé avec l'Ukraine et aussi le fait que l'Union européenne ait accéléré la possibilité pour l'Ukraine de candidater à l'entrée dans l'Union européenne.
Avant de s'intéresser de plus près à l'Ukraine, qu'est-ce qui prend autant de temps 2005-2022? C'est très long.
Oui, c'est très long, Marianne. Je dirais qu'il y a deux éléments qui font que ça a pris du temps. D'abord, on a la question de l'approfondissement versus l'élargissement. C'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que c'est très révélateur du projet européen. Le projet européen, il avait commencé avec la communauté du charbon et de l'acier et une coopération économique entre un certain petit nombre de pays, la France et l'Allemagne d'abord, et puis après on avait élargi au Benelux, à 6 pays, etc. etc. Mais au début, l'idée, Marianne, c'est véritablement de coopérer économiquement sur une petite base de pays ensemble pour éviter de se faire la guerre. Voilà, si je simplifie, c'est un peu l'Union européenne pour les nuls. Après, il y a eu le traité de Rome en 57, et après les différentes phases d'élargissement, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, et puis les pays du nord de l'Europe, et puis les pays de l'Est européens. Le dernier élargissement, Marianne, il remonte, comme vous l'avez mentionné dans ce début d'Europa Voice, en 2012 avec la Croatie. En fait, les membres de l'Union européenne se sont rendus compte qu'on avait beaucoup élargi dans ces dernières années, ces dernières décennies, et donc on avait collectivement une certaine réticence à repousser encore un peu plus loin les frontières de l'Union européenne. Parce que l'idée, c'est véritablement bah, de solidifier, d'approfondir déjà ce qui existe au sein du bloc européen. Parce que vous imaginez bien que quand on est 27 pays, 28 moins 1 avec le Brexit, hein, c'est, on a parlé il y a quelques instants de Boris Johnson, eh ben, il y a beaucoup de choses à aligner, à mettre en commun. Et puis la question, c'est quelle est la signification de, cette union. On avait un projet d'abord qui était économique, et puis là, on l'a vu beaucoup avec... notamment la présidence française, mais comment on va au-delà de ce projet économique? Quand est-ce que l'Union européenne, j'ai envie de dire, deviendra un projet politique? Quand est-ce qu'il y aura une politique d'immigration commune, une politique de défense commune, une politique des affaires étrangères communes? Est-ce que ce qui s'est passé avec l'Ukraine augure de cette politique commune des affaires étrangères? Donc, il y a vraiment cette question élargissement versus approfondissement. Donc ça, je dirais, Marianne, c'est le premier aspect. Il y a eu un frein, d'une certaine façon, de l'Union européenne à élargir encore plus ses frontières depuis le dernier élargissement avec la Croatie en 2012. Premier élément. Deuxième élément aussi, Marianne, c'est qu'au niveau de la Macédoine du Nord était ou est toujours en fait en conflit avec certains pays qui sont membres de l'Union européenne, notamment la Bulgarie voisine et puis aussi la Grèce. Et donc en fait, du fait qu'il y ait toujours... ces conflits avec des pays de l'Union européenne et que certains votes sont des votes qui requièrent une unanimité, bah vous imaginez bien qu'il y a eu des blocages de ces pays-là. Donc il a fallu aussi que les autres pays de l'Union européenne convainquent ces pays-là du bien fondé de permettre à la Macédoine du Nord, mais à d'autres pays, bah de candidater pour rejoindre l'Union européenne. Il a fallu lever ces blocages et il a fallu, du côté de ces pays en question, candidats aussi, travailler avec eux pour trouver des solutions pour que ces conflits soient réglés, ou en tout cas pour que ces conflits ne soient plus un frein à leur candidature pour entrer à l'Union européenne. Donc deux éléments, un élément à la fois d'inquiétude vis-à-vis d'un élargissement et de repousser les frontières de l'Union européenne, et puis un élément plus propre à ces pays en question, qui est celui de conflits encore latents avec certains pays déjà membres de l'Union européenne qui freinent tout processus d'adhésion supplémentaire.
Donc là, on s'est intéressé de plus près au cas de la Macédoine, mais il y a aussi la Serbie et l'Albanie, deux pays des Balkans qui sont candidats depuis de très nombreuses années. Comment on explique ce deux poids deux mesures en comparaison avec l'Ukraine et la Moldavie qui, très rapidement, sont devenus candidats?
Alors, il y a quelque chose d'un peu conjoncturel. Le conflit russe-Ukraine a évidemment accéléré, a mis la lumière sur ce pays, candidat parmi d'autres, encore une fois, à l'Union européenne. Et donc, de fait, voilà, il y a quelque chose qui est très conjoncturel, qui est de par cette guerre-là, de par la lumière mise, forcément, il y a eu beaucoup plus de pression sur les pays de l'Union européenne. Et puis, Volodymyr Zelensky, le leader ukrainien, a quand même mis une certaine pression. Au début, alors, c'est ce qui est intéressant, au début, il était pour une accélération du processus d'adhésion. Et puis, à la fin, et c'est le principe de toute négociation, chacun a un petit peu revu ses exigences pour Zelensky à la baisse en termes de timing et pour l'Union européenne ses exigences en termes d'élargissement, et ben maintenant l'Ukraine n'est plus dans un processus accéléré mais simplement dans un processus normal. Donc je dirais d'abord il y a le conflit, et puis après il faut le dire, hein, il y a du côté de la nouvelle présidente de la commission Ursula von der Leyen, il y a un vrai leadership qui a été pris par elle, parce qu'il faut se rappeler, hein, au début il y avait deux Europes par rapport à la candidature de l'Ukraine. Il y avait les pays d'Europe de l'Est, plutôt la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, qui en fait sont aux franges de l'Europe et qui voient la Russie comme une menace, et donc qui veulent aussi avoir l'Union européenne au sein de cette zone tampon que constitue l'Ukraine entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Donc ces pays qui sont favorables, qui sont toujours favorables à une entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et puis de l'autre côté, au début, on avait même la France, l'Italie, l'Allemagne qui freinaient un peu des deux fers et qui disaient non, attendez, il n'est pas pour l'instant question d'avoir une candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne. Et puis, rappelons-nous, Marianne, il y a eu ce voyage des dirigeants italiens, allemands, français, un déplacement commun. Et d'une certaine façon, le chancelier allemand a été, et je reprends des mots de confrères du Monde, a été le dernier domino qui tombe et qui a permis en fait à l'Union européenne de trouver une position commune pour que l'Ukraine puisse candidater au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez, il y a ce deux poids deux mesures qui est expliqué par vraiment cette guerre, et puis aussi par la proactivité, par le leadership à la fois du leader ukrainien, mais aussi d'Ursula von der Leyen, qui, elle, dès le début, avait plutôt répondu favorablement aux demandes du président ukrainien.
Merci Nathanaël. Je m'éloigne de l'Ukraine pour revenir sur l'Union européenne en tant que telle. On est passé de 28 à 27, vous l'avez mentionné. Est-ce que d'autres pays peuvent suivre le Brexit ?
Alors, est-ce qu'il y aura un Frexit ? Est-ce qu'il y aura un Italexit ? Le Brexit a en fait ouvert une boîte de Pandore, c'est peut-être une expression un petit peu trop forte, mais en tout cas a montré la possibilité pour un pays membre de l'Union européenne de sortir de l'Union européenne, chose qui n'était pas arrivée, Marianne, jusqu'à maintenant. Donc ça a créé un précédent. Et puis aussi, je me rappelle très bien, au début, dans les premiers numéros d'Europa Voice, on ne savait pas encore l'issue de ce Brexit-là. Et puis on l'a vu, en fait, en moins de 3 ans, on a eu une sortie effective d'un pays de l'Union européenne. Donc je dirais, sur le papier, en termes de processus et en termes de réalité, oui, c'est possible qu'un autre pays sorte de l'Union européenne. Après, en termes de réalité plus politique, je dirais, c'est une opinion très personnelle, je vois mal pour l'instant d'autres pays avec des velléités identiques, ou en tout cas avec la potentialité de sortir, pour plusieurs raisons, parce que pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui font qu'un pays ait cette volonté, cette velléité de sortir. D'abord, il faut qu'on ait un leader quand même qui ait une vision assez arrêtée de l'Union européenne et de ses relations avec l'Union européenne. Donc Boris Johnson et le statut insulaire et particulier du Royaume-Uni en étaient une de ces raisons-là. Mais en Europe, l'autre raison serait par exemple d'avoir un leader populiste. Donc on pourrait penser à Orban, mais à l'heure actuelle, il serait très difficile pour la Hongrie de justifier une sortie de l'Union européenne parce que le pays tomberait dans la faillite. Donc il faut d'abord qu'il y ait un leader qui ait vraiment un profil pour permettre ça. Et puis la deuxième raison, Marianne, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, on a vu aussi que l'Union européenne agissait en fait comme une sorte de, non pas de forteresse, mais en tout cas comme d'entité politique qui est capable d'agir et de garantir, avec toute l'incertitude que ça a, mais de garantir la sécurité et de garantir aussi le bon déroulement de certaines opérations militaires, de l'approvisionnement en armes, etc. Et donc, en fait, les pays, notamment les pays de l'Est, ont très peu d'intérêt pour l'instant à ne pas appartenir au bloc européen au vu de l'instabilité aux frontières de l'Union européenne. Et ce n'est pas, Marianne, simplement à cause de la Russie, c'est également avec la Chine, aussi avec la Turquie. Et c'est la question, ça rejoint la question de l'élargissement, Marianne. C'est en fait, là, on est arrivé à un point où on est élargi jusqu'aux frontières externes, non pas de l'Union européenne, mais du continent européen. Et donc, maintenant, il est très difficile de voir ces pays-là, limitrophes à d'autres grandes puissances hors continent européen, avoir une velléité de sortie. Et quant aux pays de l'Ouest, aux pays historiques, bon, il y a très peu de raisons qu'il y ait une sortie de la France ou de l'Italie ou de l'Allemagne. Et puis je dirais peut-être un dernier élément de réponse, des pays comme la Grèce, ne l'oublions pas, ont quand même été largement aidés par l'Union européenne pour se sortir de la crise, une crise financière qui n'est pas si loin de nous. Pour répondre à votre question, oui, c'est faisable, on a un précédent historique, mais la réalité politique me fait dire que ce n'est pas demain la veille qu'on aura un autre pays et une Union européenne 27-1 à 26.
Un mot de conclusion, Nathanaël, on va sortir notre boule de cristal. Si on devait résumer, faire un bilan, à quoi pourrait ressembler l'Union européenne dans les prochaines années ?
Je crois, Marianne, sans faire le cocorico, que la présidence française tournante du Conseil de l'Union européenne a mis la barre assez haute en termes de ce que pouvait devenir ou avoir comme projet ou ambition l'Union européenne, à la fois pour passer des votes important, et on en a parlé dans le précédent numéro d'Europa Voice, sur les questions digitales, sur les questions de neutralité carbone, d'environnement, sur les questions de salaire minimum européen. Donc je crois que ça, c'est le premier élément. C'est quels seront les grands paquets de lois qui seront votés dans les prochaines années par un Parlement européen, avec, et c'est ça qui est intéressant, avec la France qui est en train d'expérimenter là, en fait, ce qui se passe déjà au Parlement européen, c'est-à-dire des concessions, des négociations entre des groupes, des partis politiques qui n'appartiennent pas aux mêmes coalitions. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, et ça rejoint cette question de l'élargissement versus l'approfondissement, c'est quelles maintenant sont les prochaines étapes de l'Union européenne en termes non pas de coopération économique, mais encore une fois en termes de questions d'immigration, en termes de questions des affaires étrangères, en termes de questions de défense et peut-être je rêve un peu, mais d'armée commune. On a eu grosso modo 60-70 premières années, je considère le traité de Rome comme un élément fondateur 57, donc 60-70 premières années, on a eu voilà, cette économie, cette Union européenne, cette coopération économique, l'introduction aussi de l'euro. Voilà, on a une réalité de coopération économique qui est là, qui est bien là. On a des bribes de coopération politique. Et pour moi, le véritable challenge, c'est comment eh ben, cette Union européenne va devenir cet ensemble politique cohérent, mais pas simplement par, pour le fait de devenir un ensemble politique cohérent, Marianne, mais aussi parce que c'est ce qui, pour moi, maintenant, va garantir aux pays de l'Union européenne d'être un facteur de stabilité et de paix à travers le continent. Donc pour moi, c'est ça véritablement le challenge pour les années à venir pour l'Union européenne.
Europa Voice numéro 101, messieurs, dames, Nathanaël Bloch, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marianne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Amis de la gastronomie française et notamment du fromage, ces prochaines minutes sont pour vous. On a Gaëtan qui est là avec nous. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Alors vous travaillez dans le domaine du fromage.
Exactement.
Comment s'appelle votre fromagerie ?
Alors on s'appelle Long Paddock Cheese and the Cheese School in Castlemaine.
D'accord, donc vous êtes basé dans le nord-est du Victoria.
Exactement, on est au sud de Bendigo. En général, les gens connaissent mieux Bendigo.
Alors, quelle est votre particularité, puisque le fromage est un produit, je ne vais pas jouer le chauvin, mais un produit, j'ai envie de dire, français, européen, avec une tradition, avec un terroir. Comment vous avez reproduit cette culture fromagère française ?
Alors, effectivement, ça a été compliqué au début, et ça l'est toujours, hein, parce que l'Australie est un pays qui est très jeune au niveau du fromage, mais on est arrivé avec l'idée d'éduquer les gens, de créer des produits avec un terroir et une histoire australienne, mais avec des connaissances et savoir-faire qu'on a en France, forcément. Donc c'est pour ça qu'on a Yvan Larcher, le fondateur de Long Paddock Cheese, qui est arrivé il y a 2 ans et demi seulement, donc on est relativement jeune, et a créé la fromagerie Long Paddock Cheese et une école pour former non seulement les gens à faire du fromage, mais aussi les professionnels australiens qui sont encore un peu néophytes, finalement, dans le cheese-making, comme je dirais. Donc voilà.
Vous parlez d'une école pour former les Australiens à produire du fromage. Par exemple, dans la Yarra Valley, il y a beaucoup de producteurs de fromage aussi. C'est très connu, le plateau de fromage, les pique-niques australiens. C'est quand même une particularité qui est assez plaisante à voir lorsqu'on se promène sur Melbourne ou Sydney ou dans les grandes villes australiennes. Et vous avez apporté cette touche et des recettes françaises. Racontez-moi, quelles recettes françaises vous avez importées ici en Australie ?
En fait, ce qu'on voulait faire, c'était créer une gamme de fromages qui respecte la carte française et même la carte anglaise, parce qu'on a des classiques aussi anglais. Donc on a créé une gamme de fromages, à peu près 9 fromages, qui se voulaient assez variés, de façon à montrer en fait notre savoir-faire, de montrer ce qu'on pouvait apprendre aux gens, notamment les professionnels. Donc nous, c'est nos concurrents finalement en Australie, ces artisans cheesemakers qui sont là depuis plus longtemps que nous. Mais on les appelle nos collègues et on veut absolument développer cet artisanat dans toute l'Australie. Et pour revenir sur ces recettes françaises, eh bien, on a créé donc une gamme de 9 fromages, tous complètement différents, avec des cultures et des bactéries françaises que l'on importe de France, ça c'est obligatoire. Mais avec ces recettes et cette connaissance que Yvan Larcher a du fromage français et anglais, parce qu'il faut savoir qu'il a beaucoup travaillé en Angleterre aussi également. Et il a pu créer donc ces fromages qui sont encore une fois australiens, mais qui ressemblent tout à fait à nos classiques français.
Alors vous parlez de bactéries, en quoi ça consiste, techniquement parlant, de faire importer des bactéries ? C'est très flou pour quelqu'un qui est novice. En quoi ça consiste d'importer des bactéries ?
Il faut comprendre que le fromage, c'est une guerre des bactéries finalement. C'est un fromage, ça vient du lait, forcément, le lait qui a énormément de bactéries. Et en fonction du lait, en fonction des bactéries qui sont déjà présentes dans le lait, on peut ajouter des microbes, des microbiologies, ces micro-vies qui créent finalement le fromage. Elles sont toutes différentes, elles ont toute une acidification différente pour créer des fromages en fonction d'une certaine température, d'une certaine durée, en rajoutant certains additifs type la caillette qui est l'estomac de veau qui permet de coaguler le lait et de créer notamment le comté que l'on connaît en France. Ce sont toutes ces recettes qui sont très 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 spécifiques et techniques qui nous permettent de créer finalement, malgré ce terroir qui est différent du terroir français, des fromages extrêmement qualitatifs et puis très très bons.
Alors vous parlez justement de cette partie chimique du fromage. Quelle recette vous avez apporté ? Vous avez dit que vous aviez 9 fromages de France. Quels sont ces fromages ?
Alors, je suppose qu'ils n'ont pas forcément les mêmes noms qu'en France, mais vous avez quand même un certain mariage avec ces différents noms qu'on leur a en France.
Effectivement. Alors, la raison pour laquelle on les a appelés avec des différents noms, c'était pour respecter le terroir australien. Mais pour donner des exemples, on a le Silver Wattle, qui est une référence au Saint-Marcellin, finalement, qui est une copie du Saint-Marcellin, qui est très très difficile à importer en Australie parce que c'est beaucoup trop fragile. C'est un fromage qui est légalement, d'ailleurs, impossible à importer, mais en plus de ça, très très volatile et très fragile. Donc, d'avoir un Silver Wattle, d'avoir un Saint-Marcellin disponible en Australie, c'est incroyable. On a aussi notre Iron Bark, que je compare souvent au comté. J'ai mentionné juste avant qu'on utilisait la caillette, qui est notre coagulant. C'est cette espèce de peau ou de surpeau de l'estomac de veau qui nous permet de créer notre Iron Bark, qui est affiné pendant 12 mois. Donc, un peu comme le comté, jusqu'à 18 mois d'ailleurs. On a aussi on a le Sundew, qui est notre camembert de Normandie. On a un Flannel Flower, c'est notre Brie. On a aussi un Banksia, qui est une tome type Cantal, peut-être un peu raclette aussi, parce que ça se comporte très bien, notamment avec des patates et du pain en fondu. Et donc, ce sont des fromages qui, certes, ont des noms australiens, mais que moi, quand j'ai un client français en face de moi, je lui dis ça, c'est un comté, ou ça, c'est un Saint-Marcellin. Parce que je suis un peu chauvin et parce que j'aime bien comparer avec nos produits à nous.
Le Brie et le Camembert sont des fromages qui sont très durs à reproduire et il y a ce gros débat entre le lait pasteurisé et non pasteurisé. Sur quel type de lait, par exemple, vous travaillez ?
Alors, pour les soft bloomy, comme on les appelle ici, le Camembert et le Brie, on est obligé de travailler sur du lait pasteurisé. Alors, il faut savoir que le lait pasteurisé, qu'est-ce que c'est ? C'est chauffer le lait pour tuer la plupart des bactéries. Alors, comme je vous expliquais juste avant, les bactéries, finalement, c'est ce qui fait le fromage. C'est pour ça que les fromages et les artisans fromagers en Australie sont très tristes d'avoir ces règles-là. Alors, il faut compenser ça avec des cultures, des bactéries que l'on importe de France et qui ont des propriétés spéciales pour créer le fromage. Donc, on a vraiment réussi, nous, à créer un fromage, le Sundew, qui est un camembert, un vrai camembert type Normandie, assez rustique, avec ce goût un petit peu d'oignon, de cabbage, qui permet de mimiquer, en fait, les fromages de Normandie. En Australie, ils appellent ça des camemberts, mais pour nous, c'est des Brie, hein, c'est des double cream, et sont des fromages qui sont, certes, ils sont très beaux, ils sont très blancs, il n'y a pas cet aspect rustique. Et nous, on voulait vraiment reproduire ces camemberts qu'on connaît très bien en France, avec cette puissance aromatique qu'on adore.
Ah, c'est vrai qu'il y a tellement de différentes gammes de camemberts, des plus ou moins forts et doux selon la maturité du fromage. Également la même chose sur le Brie. On a deux types de Brie, notamment, quasiment des fromages de région parisienne, parce que il y a le Brie de Meaux, ouais. Il y a le Brie de Melun également. Il y a le Brie de Melun qui est beaucoup plus fort que celui de Meaux. Celui de Meaux est beaucoup plus crémeux. Tout ça cultivé dans le grenier d'Île-de-France. C'est-à-dire des territoires qui sont complètement dédiés au grain, donc qui donnent des goûts très particuliers en bouche. Et ces goûts-là, vous avez réussi à les reproduire, ce qui est quand même assez, assez incroyable.
Exactement, on est très fiers, effectivement.
Merci beaucoup Gaëtan. Si le particulier souhaite acheter du fromage, souhaite se fournir en fromage français, comment ça se passe ?
Alors, c'est encore relativement compliqué vu qu'on est nouveau. Mais il faut savoir qu'à Castlemail, on a une école et on a aussi un magasin. Donc, ils peuvent venir acheter là-bas, au sud de Bendigo. Et dans Melbourne, il faut savoir également qu'on a une multitude de stockistes, notamment au South Melbourne Market, Pride Market, au Queen Victoria Market, sur Brunswick également. Mais pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site web. Et on a une liste de tous nos stockistes qui, j'espère, sera relativement près de chez vous.
Merci Gaëtan, on se dit à très bientôt.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Les titres de ce samedi 23 juillet, avec l'augmentation du nombre de personnes infectées par le Covid-19, le retour du travail à la maison est désormais une option à reconsidérer selon les syndicats. La signature d'un accord entre la Russie et l'Ukraine ce vendredi afin d'ouvrir les couloirs sécurisés pour exporter des millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens, c'est l'aboutissement de longues semaines de négociations. Et le président américain infecté par le Covid-19 se porte bien.